France Inter.
C'est la bande originale sur France Inter. Soyez les bienvenus avec Bruno Pecky, Camille Lavabre, Emma Beaujean, Ozolar.
Mais oui, bonjour.
Oui, bonjour à toi. Daniel Morin.
Coucou Camille.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau nous rejoindra. Et notre invité aujourd'hui, c'est Yann Couvreur.
Bravo.
France Inter, la bande originale.
Joyeux Noël,
Leila Kader.
Et oui,
moins fort, j'ai mal au crâne.
Oui.
C'est qui? C'est la dernière fois qu'on les voit,
c'est la dernière fois de l'année. C'est la dernière fois de l'année qu'on l'écoute.
Voilà. Ah oui,
on en profite parce qu'on n'a pas assez entendu tout ce mois de décembre. Bonjour Yann Couvreur.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien, merci.
Un peu fatigué de ce réveillon?
Ouais, bah en fait, je tiens pas la route, moi, le 24 décembre, généralement, c'est là où je relâche, donc je me couche assez tôt, finalement.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est un peu... Ouais.
Ah ouais. Ouais. Vous attendez le Père Noël?
J'ai un peu foutu l'ambiance
en l'air. Ah ouais, ouais, c'est ça. Attendez, je la relance. Je vous ai pas changé de version.
Généralement après l'entrée, moi je commence
à.
Ouais,
même pas le dessert.
Ouais.
Vous.
Ouais, surtout que c'est toujours le mien, je suis un peu puni en fait.
C'est les enfants qui débarrassent.
Pour moi, attends, je précise que c'est une punition que pour moi.
Hein, oui, parce que pour nous, c'est pas une punition.
Ouais, non, mais moi je suis dedans tout le temps. Alors forcément, le pire gâteau que je puisse manger, c'est le mien.
D'accord, ok.
Mais c'est très personnel.
Alors moi,
c'est une bonne pub en tout cas.
Moi je pense que c'est. Oui, c'est ça, c'est bien.
Je m'en rends compte.
Non, mais je vais.
Le roi de la promo.
Non, c'est vraiment que pour moi cette punition.
Non, vos gâteaux sont absolument fantastiques. Et puis
merci.
Là, vous sortez un livre rustique dont on avait envie de parler, Les desserts de maison, aux éditions Solar, où vous, on vous voit en quatrième de couverture en très très bonne compagnie. Où
ouais,
il y a cette histoire déjà de transmission avec vos enfants.
Bah, normalement, les gens doivent très bien savoir de quel livre il s'agit, puisqu'il était au pied du sapin hier soir.
Voilà,
donc,
c'est celui-ci.
Ils doivent, voilà,
et pour ceux qui ont eu un livre qui ne leur plaît pas, ils peuvent l'échanger en
contre
faveur
celui-ci,
voilà, de rustique. Ce nouveau livre où vous nous livrez vos recettes de desserts maison, les grands thèmes, quoi, les grands tradis, les grands classiques.
Pour ce livre, je me suis interdit l'usage de la poche à douille, qui est souvent une forme d'inaccessibilité technique pour les gens à la maison.
Pour les mortels,
voilà,
comme moi.
Donc on n'a utilisé que des cuillères et c'était très amusant. Voilà. L'idée, c'est de la rendre, cette pâtisserie, très accessible.
C'est ça, retour aux choses simples et retour aux choses qui sont faites maison, tout simplement. Tour de table, justement, quel est votre talent, votre capacité incroyable à faire des choses avec vos mains, votre do-it-yourself, Daniel, je t'en supplie. C'est Noël. C'est une émission familiale. Voilà, il est 11h, il y a des enfants.
C'est la fête des enfants.
Je sais qu'en posant cette question, je rentrais tout de suite dans une sorte de trou béant, pardon.
Ah ouais, non, mais là.
Emma, je t'en supplie.
Elle fait les questions, elle fait les réponses, elle se noie toute seule. Voilà. C'est pas Noël, c'est Halloween.
Et moi, je t'en supplie.
Je suis nulle avec mes mains.
Comment ça?
Non, non, Daniel, je t'en supplie, ne croise pas mon regard. Non, si, mon arrière-grand-mère, transition, m'a appris à faire du point de croix, c'est tout ce que je sais faire avec mes mains.
Donc c'est quand même super.
Merci, Daniel.
Et tu le fais vraiment?
Non.
Ok, d'accord. À toi, Camille, sauve-nous.
Alors, non, mais moi, j'allais dire, je suis pas très manuel. Tu es si rouge, Daniel. Mais.
Je crois que
je fais très bien. Attends, me regarde pas, Emma. Okay. Je fais très bien les massages du dos, tout ça. Je crois que je masse bien.
Ça, c'est une vraie
qualité.
Détends.
Ouais.
Tu détends. Voilà.
Je détends.
Bruno, ton petit truc en plus.
Moi, je suis très manuel pour le coup. C'est tonton Daniel qui m'a appris ça.
Non, écoute,
à part écrire de très bonnes chroniques. Non, je suis vraiment pas manuel. Non, j'ai de la peine. Je saurais même pas quoi te dire.
Même pas te lancer dans une activité manuelle, te dire je vais apprendre quelque chose.
Non, okay. J'aime pas trop.
All de la
moi, le bricolage, je bricole beaucoup. Je crée ma maison et je bricole pas mal. Voilà, notamment la maçonnerie. Je suis un gros maçon.
T'es un gros maçon. Daniel.
Oui, la pâtisserie. Je suis un cookie master.
Ah, c'est vrai qu'il fait des très bons cookies. J'ai déjà goûté des cookies, sont très bons.
Ah, papa,
non. Ouais.
Cookie master.
J'avais goûté.
Non.
Est-ce que c'est une raison pour mettre ses poings sur les hanches? Je ne sais pas.
C'est vrai. Je valide. Master. J'ai déjà goûté les cookies de Daniel. Moi, je suis plutôt pas trop mal manuellement. Gâteau, pas mal.
Oui, très très bon.
Merci. Et j'aime bien bricoler aussi.
Très inspiré. Il y a un gâteau avec une tête de loup qui m'avait très impressionné.
Ah oui, c'était le gâteau d'anniversaire pour ma chère et tendre. Vous, Yann, à part C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Pardon.
Je pensais que ça suffirait, mais
non, ouais. Non. Mais non, il faut un truc en plus. Ouais.
Qu'est-ce que je fais avec mes mains?
Vous bricolez, vous.
Shifumi, ça peut.
Très bonne réponse. Ouais. Très bonne réponse de Shifumi. Yann Couvreur est notre invité pour Rustique, les desserts de maison. Et ici, dans la bande originale, il y a quelqu'un qui est particulièrement fan de vous. Il est derrière moi. C'est Oldelaf.
Oh,
ah oui!
Je suis fan de Yann Couvreur. Comme Christophe Colomb, c'est le plus grand découvreur. Sauf qu'en plus, lui, il sait faire de la pâtisserie. Colomb connaissait qu'un gâteau et il a mal vieilli. Yann, j'ai été surpris par une de vos recettes. C'est celle qui s'appelle le caca à la noisette. Et puis Leïla m'a dit qu'on disait un cake. Pardon, le caca à la noisette, c'est ça la recette du Colomb. Et vous êtes là pour rusticler desserts maison.
C'est pas possible.
Un livre sur de bonnes recettes tradition. Daniel fait des gâteaux mais il croque trop, dis donc. En tout cas, il m'a dit c'est un dessert mes ongles. Si complet, il est vraiment d'une grande aide. Ça évite que les gens commandent des desserts sur Vinted. Ou pire qu'ils ramènent des vieux trucs qu'ils gardaient chez eux. Car pour les cuisiner tout seuls, ils sont trop paresseux. Bang bang, tu toques chez ta mère. C'est Noël et tu te rappliques. Il y a aussi mamie et ton frère. Je vois pas pourquoi ça serait sympathique. Oui. T'as ramené de la compote. C'est léger même si c'est pas folichon. Et puis un reste de gâteau aux carottes. Je vois pas pourquoi ça pourrait être bon. Mais mamie a ramené un gâteau. Pas celui qui t'avait envoyé à l'hosto. C'est une recette d'un vieux gâteau tradition. Du livre de Couvreur en dessert maison. Et là tu goûtais, c'est tellement bon. Le rustique c'est fantastique. La tradition super bonbon. C'est une question de réflexe. Les congelés nous laissent perplexes. Le rustique c'est fantastique. Le fait main c'est vachement bien hein. C'est une question de réflexe. C'est meilleur qu'un resto Tex-Mex. Oh je suis fan de Yann Couvreur. Et on n'est pas débile. On sait que votre dessert signature ça reste les tuiles. Vous êtes notre invité. On vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Oh oui. Merci Oldelaf.
Oldelaf sur scène pour Opération Bretzel, ça aussi c'est du rustique. Il sera le 18 janvier à Lille et à Toulouse, ce sera le 31 janvier.
Comment vous définiriez rustique Yann Couvreur?
Déjà je voudrais te remercier parce que franchement, waouh, c'est peut-être mon plus beau cadeau de Noël.
Oh là là, ça y est.
Merci beaucoup.
Faites-vous un câlin.
On s'est effleuré la main. Pour
ça commence toujours comme ça.
C'est ça,
oh, wow.
Une rencontre.
Rustique, voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous la définition de rustique?
La rusticité, déjà, c'est pas un mot vulgaire pour moi. Hein, surtout que je suis très attaché au monde rural,
oui.
Évidemment par mon métier, mais aussi parce que le fait, bon, après le Covid, j'ai aussi migré un peu à la campagne. J'en ai eu besoin, comme beaucoup de monde, et du coup, aujourd'hui, j'y passe tous mes week-ends. C'est surtout ça qui m'a inspiré ce livre, le fait de cuisiner simplement avec les enfants, parce qu'on tue le temps comme ça en fait. Mm-hmm. Voilà.
Et des aliments simples, c'est brut.
Ouais.
Là, comme vous l'avez dit, pas de prouesse technique, pas de structure qui défie la pesanteur, qui fait que quand on ouvre un livre de cuisine, on se dit de recettes de dessert notamment, on se dit ah waouh, la liste d'ingrédients, elle est complexe. J'ai pas tout à portée de main, je sais même pas où je vais pouvoir me procurer tel ou tel ingrédient.
Non, c'était pas le but.
Voilà.
Il y a des ingrédients, parfois, t'as jamais entendu le nom, quoi. En fait, tu sais pas où ça se trouve.
C'est ça.
Non, là, bon, il faut déjà savoir que c'est mon sixième livre.
Oui.
Donc, je pense que la démonstration technique, je l'ai déjà abordée. Alors, peut-être que je manque d'humilité en disant ça, mais je considère que j'ai pas forcément approuvé de ce côté-là. Et par conséquent, je voulais me mettre au travail sur un projet plus sympa, plus relâché.
Et qu'on peut faire à la maison, parce que c'est un peu ça l'idée.
Et adapté au plus grand nombre. Ouais.
Voilà, c'est ça, parce que finalement, est-ce que c'est pas ça la plus grande définition du luxe, que d'accéder à des choses simples, avec des produits bruts, avec, vous le dites, l'aspect, en fait, peu importe. C'est-à-dire que là, c'est très très beau, bien sûr, hein, dans le livre.
De toute façon, on n'arrive pas à reproduire exactement ce qu'il y a en photo, c'est pas possible.
Et c'est pas si grave, puisque non. Ce qui compte, c'est le retour aux choses simples et au goût de l'enfance, d'une certaine façon.
Et puis, alors, c'est intéressant ce que vous dites sur l'apparence du produit, parce que bon, déjà, il y a le travail de Laurent Faux, qui est un immense photographe qui sublime évidemment les produits, parce que moi je peux vous dire que ces produits-là, quand je les ai vus en vrai, ils étaient moins beaux en réalité, parce que c'est lui qui rend le produit avec sa lumière, qui le met extrêmement bien en valeur.
C'est lui qui choisit aussi tout ce qui court l'environnement, la mise en scène.
Alors,
les assiettes, la vaisselle.
Sarah Vassegui qui est l'accessoiriste, la styliste.
Ouais.
Et qui, évidemment, est là. En fait, on est dans la même équipe depuis le début, depuis le premier livre.
D'accord.
Et donc, on garde une certaine trame.
C'est très réussi. Et voilà, et puis, c'est très, très réussi. Et ça permet... bon, alors, nous, on fantasme sur cet aspect-là. Et c'est pas grave si ma boisson au marron n'est pas aussi belle que celle-ci.
Mais personne vit dans un décor comme celui-là. Voilà. Il faut vraiment accepter. Donc, il ne faut pas créer de complexe par rapport à ça. Moi, je suis obligé aussi de vous donner envie. Donc, je travaille sur des lumières et... Et voilà, mais il faut pas complexer là-dessus.
Ouais, donc l'apparence, ça, peu importe. Vous dites aussi que les recettes sont adaptables. Vous le dites en ouverture, que ça met à l'aise tout le monde. En gros, vous n'avez pas exactement le même, le même sucre. Ça peut le faire.
Déjà, moi, je considère que c'est un livre de recettes cuisinées. Donc, dans la notion de cuisine, vous avez cette part de... on peut tenir un peu à l'écart la balance parfois et s'approprier et adapter vraiment le dessert à la recette.
Oui, donc là, on est un peu livré. On a l'occasion d'un peu expérimenter, ce que j'aime bien.
Ça fait partie du jeu.
Ouais, il y a deux temps dans ce livre. Il y a deux saisons, enfin deux grandes saisons, comme pour la mode, en fait. Il y a automne-hiver, printemps-été, des choses plutôt chaudes.
Réconfortantes,
chaleureuses. Ouais. Donc, ça correspond parfaitement à cette époque avec des produits de saison, là encore. Donc, aujourd'hui, cette saison-là, en ce moment, en décembre-janvier, qu'est-ce qu'on met en valeur?
Alors, moi, je suis très attaché, évidemment. C'est mon cahier des charges au quotidien, mon cahier des charges créatif. C'est de respecter la saison et la nature des produits. Donc en ce moment, on peut retrouver facilement les pommes, les poires qui sont largement utilisées dans cet ouvrage, mais aussi des flans, parce que je vois en même temps vous,
je vois les flans,
vous faites une anti-sèche formidable.
Oui, je tourne les pages en même temps.
Voilà, des crèmes aux œufs, des choses
des
comme
brioches,
ça, du caramel.
C'est riche.
Bien sûr, des ananas rôtis aussi, j'ai vu. Voilà, tout ce qu'on aime.
Et des grands classiques. Donc, il y a le riz au lait, par exemple, qui fait partie des grands classiques. Il y a aussi un yaourt à l'ananas, le tatin à l'ananas, qui est une base de gâteau yaourt, en fait.
Ni plus ni moins, on peut la qualifier comme ça. Hein. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'aller aussi chercher des twists, parfois, sur des produits que vous avez l'habitude de fabriquer. Et puis, mixer deux recettes traditionnelles, ça peut... Puis voilà, des fois, j'étais un peu à court d'idées. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Au bout de six livres,
j'imagine que les recettes ont été testées, évidemment.
Voilà. Avec une croûte de sucre. Alors ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Ouais, ça m'a vraiment fait saliver. Je me suis non seulement une cuisson...
La croûte ou le sucre?
Non, mais les deux. Non seulement il y a la cuisson, comme on pourrait dire pour un poisson, à la croûte de sel entièrement recouverte.
Ah oui, on parle de cette croûte de sucre, d'accord. Parce que c'est une technique aussi qu'on retrouve souvent pour chemiser les produits, pour essayer d'avoir un premier contact très craquant.
D'accord.
Là où souvent on ne met rien, moi j'aime bien mettre un peu une petite couche de beurre et de sucre qui vient caraméliser le pourtour des gâteaux. En plus, souvent le pourtour des gâteaux, c'est la note finale du produit et elle peut laisser un petit goût d'inachevé ou voilà, un peu plus sec, puisque c'est toujours un peu plus sec sur les extérieurs, les gâteaux. Donc voilà, on a quand même cette surprise-là.
Comment ne pas laisser les trottoirs? Moi j'appelle ça les trottoirs, les bords.
Exactement.
Et de se dire que tu peux finir l'assiette de tout le monde et finir tous les trottoirs.
Toutes les croûtes.
Ouais, j'adore.
C'est peut-être l'idée d'un prochain livre. Il y a plein de solutions possibles.
Bah, ça serait pas mal, ça, comme thème. Trottoirs.
Un peu niche.
Croûte et trottoirs. Mais, voilà, mais bon. Franchement, vous pouvez avoir un public.
Un nom d'émission. Mais...
On a donc les grands classiques, le banana bread, qui est d'une beauté absolument folle. Le gâteau, le fameux gâteau au chocolat. Est-ce qu'il y a une recette en particulier qui est votre grande signature à la maison? Qu'on vous réclame à la maison.
Alors c'est vraiment très saisonnier aussi. Mais ce gâteau au chocolat justement, parlons-en puisque en ce moment il est un peu viral.
Je l'ai beaucoup trouvé sur les réseaux.
Alors c'est quelque chose qu'on maîtrise absolument pas. C'est un gâteau au chocolat que moi j'appelle gâteau au chocolat qui s'est retrouvé en le fondant Diane Coureur sur TikTok.
Oui.
Et je lâche.
C'est la consécration quand on est associé à un gâteau au chocolat parce que le gâteau au chocolat on sait qu'il y a une passion commune.
C'est moi je suis le premier surpris. J'avais pas un plan de com. vraiment, vraiment défini là-dessus.
Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce gâteau au chocolat? Par rapport, par exemple, je sais pas, au gâteau de chocolat de Nathalie, de Trish, du dessert, c'est une sorte de grand gâteau. On met, je crois, à peu près l'équivalent en œufs, en sucre. C'est un truc costaud. Et on met qu'une cuillère à café, je pense, de farine à la fin.
D'accord. Non, c'est un gâteau qui est assez riche aussi, hein, il faut le dire. C'est un gâteau qui a une note de sel dedans. Et le côté salin peut parfois faire exhauster les goûts, comme le chocolat, et paraître un peu moins sucré en bouche. Bon, le sucre, il est quand même présent.
Mais
c'est un gâteau, ouais, qui a eu une, et qu'on retrouve en boutique d'ailleurs. C'est un des rares produits qui est en
que
boutique.
Que vous vendez également. Ça, je vois en effet la c'est viral, quoi. Ouais. C'est vraiment.
Mais c'est quelque chose. Vraiment, je suis le premier surpris. Hein. C'est un gâteau au chocolat, donc.
mais
c'est hyper flatteur quand on est pâtissier d'arriver à convaincre par des choses aussi simples.
Oui. Là, dans cette recette, en revanche, faut peser les œufs. J'ai vu à plusieurs reprises. Ouais. Certaines recettes, on peut dire 2-3 œufs, donc je me dis c'est pas très important. Là,
c'est juste parce que nous, comme on travaille donc en laboratoire, on n'a pas le droit aux œufs coquilles, donc on est obligé de les peser et forcément nos recettes sont converties comme ça.
Ah d'accord.
Ouais, on travaille avec des œufs en bidon, c'est interdit de faire entrer une coquille dans un laboratoire.
Ah bon Pourquoi
Parce que c'est porteur de bactéries.
De germes, tout ça.
Ah ouais. Des recettes simples, donc là on a parlé de l'automne-hiver, moi j'ai commencé aussi à imaginer ce que je pouvais faire au printemps-été, forcément.
Parce que t'as besoin de vacances.
Moi j'ai besoin de me projeter, exactement, j'ai besoin de planifier, parce qu'il y a des desserts, la tarte au citron meringue et soufflé, par exemple, les beignets à la banane, je pense au cheesecake, au pancake, au myrtille et au beurre d'érable, la tarte fine aux nectarines qui est d'une beauté sans nom, elle est absolument sublime, parce que ça aussi, on peut se dire, on peut se lancer dans une sorte de challenge sur à quoi va ressembler mon dessert pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Il y en a vraiment là encore pour tous les goûts, et le tian de pêche et de thym au citron. Alors ça, pardon, mais ça a l'air tellement simple que il faut quand même un petit peu de matériel.
La poche à douille ?
Non, pas la poche à douille, mais il faut quand même une sorbetière.
Alors ça, c'est si vous
faites la crème glacée à côté.
C'est toujours facultatif, hein, bien sûr. Et puis après, franchement, je comprendrais et je vous en voudrais pas. Que
si j'achetais directement ma crème glacée.
Si j'ai un bon glacier, évidemment.
Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, j'imagine que vous devez être. Ça doit être difficile, vous, de choisir les produits. Ça doit être un. Vous pouvez pas tout prendre n'importe où, je suis sûre.
Non, des fois, quand il faut acheter un truc un peu shit. Product, j'envoie mon fils. le pot blanc là-bas.
Comme ça, on ne voit pas le faire. Ah là 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 là, c'est
bon. Non, mais je me suis déjà retrouvé dans une situation. En plus, bon, alors moi, je vais dans une grande surface qui est extrêmement connue à la campagne, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et je me fais souvent.
Ils vous suivent ?
Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'en plus, moi, j'aime bien les trucs. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, j'ai plein de cheat meals affreux qui vont complètement en contradiction
avec ce que vous prenez. Mais ça vous rend humain, Yann. C'est ça qui est bien.
Je suis très.
Et voilà, c'est ça. Parce qu'on se dit, oh là là, est-ce que je peux me permettre de sortir devant Yann?
Non, il faut complètement
glace,
se décomplexer. Je peux vous dire que mes amis, ils n'ont aucun complexe.
Donc, beaucoup de recettes dans ce livre rustique, entrecoupées aussi de pages qui sont consacrées à des accessoires, belles illustrations, des beaux dessins, où on peut réhabiliter la Maryse, Daniel.
La Maryse, moi, j'en ai plusieurs des Maryse.
Exactement. Avec
très pratique.
La Maryse, je lis, c'est la promesse que rien ne se gaspille, rien ne se perd, et ce, jusqu'à la dernière goutte. Voilà, il y a des petites élancées comme ça, poétiques, autour de ces ustensiles.
En fait, derrière chaque projet, je vais pas appeler littéraire parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais chaque projet de livre comme j'aime bien faire participer l'équipe graphique aussi parce que déjà ils sont plein de talents et du coup ça enrichit aussi l'ouvrage de cette manière-là et j'aime bien, et à chaque fois on le fait. Alors soit c'est avec des schémas explicatifs, soit c'est avec, puis même vous voyez les pages de la fin là, tout à la fin. Il y a des illustrations, voilà, donc
il y a du dessin,
j'aime
effet.
Bien. Moi, je suis enfant de libraire, je sais pas si vous l'avez.
Si, absolument.
Donc le livre, ça a une importance qui est très forte.
Avec aussi on apprend des choses aussi dans ces pages là sur les ustensiles, notamment j'ai découvert par exemple que il y avait une histoire associée à la toque du chef.
Ouais.
Je savais pas que le nombre de plis renvoyait en fait à l'expérience du chef.
Ouais, alors ça c'est vraiment une histoire traditionnelle qui est aujourd'hui pas tellement appliquée. Déjà, je vois plus un chef en toque.
Donc, c'est vrai.
Voilà, donc alors soit ils sont pas du tout expérimenté.
Oui, c'est ça.
Soit,
on va dire ça.
Ouais, je pense que c'est. Mais non, la toque, c'est plutôt une tradition.
Vous, voilà, vous ne vous couvrez pas la tête, si. Vous êtes obligé de vous couvrir la tête quand vous travaillez.
Surtout quand on s'appelle couvreur.
Couvreur.
je me couvre aussi, mais alors, c'est pas du tout glamour parce qu'au laboratoire, on a on est contraint de porter la charlotte.
Ouais. Oui.
Donc voilà. Alors, ah, là, oui. C'est. Voilà, je vous montrerai, j'ai des photos.
C'est pas sexy, c'est pas sexy la charlotte.
Vendredi soir, la dernière photo en date, elle est dans mon téléphone.
Oh là là, oh là là. Rustique, les desserts de maison de Yann Couvreur, notre invité dans la bande originale, aux éditions Solar. Et ça fait un très beau gâteau, un très beau
J'espère
cadeau.
J'espère que ça fait des bons gâteaux.
Et un très beau cadeau aussi. Oui. Moi, je suis toujours très très inspirée par les images. J'ai très envie de me lancer. Notamment, j'avais repéré donc ce tian, donc faut que j'attende un peu. La belle saison et en ce moment les poires pochées quoi.
Mais le tian c'est typiquement une recette qu'on peut adapter avec un autre fruit en saison, enfin voilà,
qu'on pourrait faire avec des pommes
exactement, des poires aussi. Bon, il faut essayer de privilégier des
variétés
et des produits surtout. Ouais. Alors on peut prendre plusieurs pommes, mais il faut essayer surtout de prévoir des fruits avec les mêmes fermetés pour pas qu'il y en ait qui soient compotés quand d'autres sont encore fermes.
Oui.
Sinon, ça peut être un style.
Oui, voilà. C'est vrai, ça peut être une tentative. En tout cas, Rustique, c'est un très très beau livre et tout de suite dans la bande originale, c'est vous, Bruno Pecky.
Oui.
Alors Bruno, vous n'auriez pas fait Rustique, ce livre comme ça que je viens de vanter pourtant.
Non, mais là, Léla, on a un gros problème en fait.
Qu'est-ce qui se passe?
Non mais tu me connais, quand on reçoit des cuisiniers ou des pâtissiers, je fais toujours des blagues sur le fait qu'ils nous ramènent rien à manger.
Sauf.
Donc là, j'ai la moitié de ma chronique sur ce sujet, là, toute cette page c'est sur là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, Yann a ramené des desserts,
voilà.
On va se régaler, mais maintenant je suis dans la merde, je sais plus quoi dire, quoi. Moi je vais faire comme d'hab, je vais me plaindre, hein, et cette fois je vais me plaindre du fait que Yann a rapporté à manger, quoi. Non mais c'est quoi cette idée, Yann, de nous rapporter des desserts? Vous voulez que je mange en même temps que je fasse ma chronique? Les gens ils vont rien comprendre, quoi. On fait de la radio, je vous rappelle. Vraiment c'est cuistot, quoi. Soit ils ramènent rien et c'est pas ce qu'on attend d'eux, soit ils ramènent des trucs et c'est encore moins ce qu'on attend d'eux, quoi. Voilà, bah j'ai fini mon papier, tout le reste c'était sur la radine Ridiane.
Merci beaucoup.
Je pense que je vais passer le reste de ma chronique à bouffer, quoi. Non, alors heureusement j'ai lu votre livre, effectivement, Yann, je l'aurais pas fait comme ça. J'ai la promo.
Ça, c'est vrai.
Ah, mais c'est écrit dans son nouveau livre, le chef pâtissier Yann Couvreur ne propose pas de réinvention gastronomique ou esthétique, il présente simplement les grands classiques d'antan qui l'ont régalé. Traduction: le mec s'est pas fait chier. Voilà. Il a repris les recettes de sa daronne et de sa grande daronne. Il en a fait un bouquin. Voilà. La chance, quoi. En humour, on va pas faire ça, hein. Moi, si je réunis les blagues de mon père ou de mon grand-père, je me fais cancel direct, quoi.
C'est clair.
En fait, vous misez sur la tradition et les incontournables. Le malin, quoi. Il réinvente rien et en fait un concept. C'est le bouquin de recettes parfait pour les gens qui ont jamais eu d'autres bouquins de recettes. Vous dites que vous aimez vous inspirer de l'enfance. Vos précédents livres étaient inspirés des recettes que vos gamins aimaient. Pour celui-ci, vous êtes allé chercher dans votre enfance à vous les plats que vos parents vous cuisinaient. Bon, je pense que c'est le moment de sortir de l'enfance, Yann. Hein, sinon, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? On reçoit Yann Couvreur pour son dernier livre, Les 100 façons de préparer le lait maternel. Non, en réalité, j'aime bien la philosophie que vous défendez avec ce bouquin. Vous dites que ces douceurs rustiques ne cherchent pas la perfection visuelle. Elles sont imparfaites, tantôt débordantes, tantôt restées trop longtemps dans le four, mais elles sont généreuses. Elles n'ont pas d'autre prétention que de faire plaisir. Et je trouve que vous avez bien résumé ma personne. Bien avant, quand je me ferai insulter dans les commentaires sous mes vidéos, je répondrai « Ma chronique n'est pas ratée, elle est rustique. » Moi, je trouve super ce livre de recettes où t'as le droit de les rater, l'auteur te pardonne, quoi. Faites comme ça, à peu près, et si vous foirez les proportions, c'est pas grave, ça se bouffe quand même. Franchement, vous êtes sympa, Yann. Sympa aussi de venir nous voir le jour même de Noël, plutôt que de le passer avec votre famille. Après, il doit avoir l'habitude avec vos voyages dans vos boutiques de Paris, Miami, Dubaï. Vos enfants, quand on leur a dit « C'est le Père Noël, c'est un monsieur qui travaille beaucoup, qui fait le tour du monde et qu'on voit une fois par an pour faire des cadeaux », ils ont répondu « Bah, ça ressemble quand même beaucoup à papa, non ?» Bon, là, j'ai un petit problème, parce qu'en fait, j'avais une conclusion sur le fait que vous apportez jamais à bouffer. Donc je sais pas comment terminer cette chronique. Je crois que le seul truc qui me reste à faire, c'est d'aller manger les desserts de Yann. Donc bon app et joyeux Noël.
Bravo Bruno.
Bruno qui sera sur scène à Paris au Point Virgule le 27 janvier.
Et ces voyages-là, en effet, en revenant sur ce que vient de dire Bruno, à savoir que vous bougez beaucoup pour aller dans les boutiques que vous avez. Je crois qu'il y a une nouvelle boutique à Paris déjà depuis quelques temps. Donc c'est Yann Couvreur s'agrandit.
Oui, c'est vrai qu'il y a un projet d'expansion permanent. Donc là, au mois de novembre, j'ai fait un peu la tournée puisqu'on est extrêmement bien développé au Moyen-Orient. Donc ça m'a pris 2 semaines d'aller visiter chaque boutique, dont certaines que je n'avais même pas vues et qui étaient déjà ouvertes, donc ça c'est assez fou. Mais
est-ce que le goût est différent? d'un pays à l'autre. Est-ce que, en ouverture du livre, vous dites je ne désucre pas, je mets la quantité de sucre raisonnable. Est-ce que d'un pays à l'autre, on a gustativement d'autres attentes, d'autres intolérances plus exprimées?
Il y a encore peu de temps, je disais aucune différence.
Oui.
Et maintenant qu'on a quand même un tout petit peu plus de recul, on s'aperçoit qu'au Moyen-Orient, par exemple, l'acidité est moins prononcée parce qu'ils aiment pas ça. Donc, on a dû adapter un peu certaines recettes. Donc, voilà. Mais c'est surtout, en fait, qu'on va créer de nouvelles recettes pour là-bas.
D'accord.
Donc, on garde notre ADN parce qu'il faut qu'il y ait une
ligne. C'est quoi votre ADN, alors? Comment on le définit? C'est pas simple?
Finalement, moi, j'avais besoin, de toute façon, pour créer, de me faire un cadre précis. Donc, aucun ajout de colorant dans aucune recette,
d'accord,
aucune feuille d'or, aucun apparat, aucune sophistication qui vient perturber le goût et même l'œil. Puisque, en fait, moi, je considère que la nature nous donne, on la prend telle qu'elle est.
D'accord.
Donc, j'ai volontairement des vitrines en hiver qui sont un peu plus ternes et qui deviennent rouges au printemps, puis jaunes en été. Mmh. Et c'est ça, le jeu de la naturalité. Donc,
naturalité,
je cherche pas du
pas
tout
d'artifice.
À essayer de... Oui. Voilà, je travaille d'abord le goût et ensuite le visuel, on fait sobre.
Oui.
Voilà, le gâteau est son propre décor.
Non, mais déjà, rien que là, vos recettes rustiques, les photos sont incroyables. Ils sont hyper beaux. Là, je vois le banana bread. J'en ai jamais vu des comme ça.
Non.
Un banana bread, d'habitude, c'est un petit peu mélangé, un petit peu écrasé. Là, il est formidable, il est fantastique.
Merci.
Bah oui.
Ça va se transformer en déclaration d'amour, là, tout de suite. Je sens que Daniel est à deux
commencé,
doigts.
J'ai commencé.
À deux doigts. En même temps, c'est la magie de Noël.
Puisqu'on parle banana bread,
ils seront en concert. Et qu'est-ce que vous entendez par désucrer ou ne pas désucrer? Quand je vois, moi je suis très sensible à la quantité de sucre dans un dessert parce que je me rends compte aussi que ça me met pas forcément très très bien. C'est un peu la tendance des plats et des pâtisseries à IG bas où on essaie de trouver des sucres alternatifs qui font moins monter, je crois, la glycémie. Je suis pas une experte, mais c'est comme que je me le résume. Vous, votre approche là-dessus, c'est de vous dire, vaut mieux quoi en manger? Peut-être un petit peu moins, mais vraiment du sucre.
Moi, j'essaie surtout de sucrer juste parce qu'on, de toute façon, on consomme moins sucré, c'est générationnel finalement. J'ai pas une pâtisserie, on va dire, niche. Donc, je fais une pâtisserie traditionnelle, issue de base classique. Donc, je recherche pas à conquérir le peuple ou d'une certaine manière avec une idéologie sur le sucre. Évidemment, on fait attention, on a une conscience responsable sur la façon de bien manger, mais c'est pas devenu un argument de vente.
Pour nous,
on fait la pâtisserie la plus consensuelle possible.
D'accord.
Et en même temps, on essaye de garder une singularité. Donc c'est tout ça l'enjeu et le paradoxe.
Est-ce que vous avez des demandes de création pour, j'imagine, pour des événements où ça vous donne aussi l'occasion de tester, d'expérimenter?
Bien sûr.
C'est aussi la vie d'un chef pâtissier.
On a un service interne qui s'occupe de toutes ces demandes un peu privées, qui aussi nous amuse beaucoup et nous éclate et nous épanouissent, puisque c'est vrai que c'est ce type de demande un peu challenging qui nous remet parfois le pied à l'étrier et nous font voyager aussi beaucoup parce que c'est souvent des demandes
à l'étranger.
Donc c'est toujours des aventures.
Est-ce qu'il y a des demandes spéciales qui ont fini dans vos magasins? Vous dites c'est une super idée, finalement
développer. Plutôt des demandes de nos partenaires à l'étranger, notamment à Dubaï où il y a toute une gastronomie locale entre guillemets liée au Moyen-Orient, sur la pistache, sur la rose, sur des choses comme ça qu'on n'explorait pas tant que ça il y a encore quelques années, et puis finalement ils nous ont demandé vraiment de travailler dessus, et puis finalement le résultat était tellement satisfaisant qu'il a terminé par
garde.
Comme les barres de chocolat fourrées à la pistache avec
le fameux Dubai chocolat. Alors c'était pas du tout ce produit auquel je faisais référence, mais effectivement en fait c'était un produit que je trouvais intéressant parce que il était très trendy et du coup
très à la mode.
Mais alors en le goûtant j'ai une
je traduis.
Mais du coup en le goûtant j'ai une vraie déception parce que ça fait pas partie de nos marqueurs en fait. Donc on s'est amusé à le retravailler de manière moins gras, moins sucré.
Ah oui.
Et plus axé sur la pistache. Et puis après le cours de la pistache s'est envolé avec cette histoire. Enfin, c'était.
Oui, c'est devenu intouchable. Oui,
une demande juste particulière. Ça m'est tombé dessus, mais je suis intolérant au gluten. C'est assez pénible, et notamment pour la pâtisserie. Par quoi vous conseillez de remplacer la farine de blé? Moi, je mets du petit épeautre qui ressemble un peu à ce qu'il y a mieux.
Ouais, bien sûr. En termes de. Bah, c'est en fait, nous, comme on a un laboratoire qui accueille la farine, donc déjà, on peut absolument pas jouer avec ça. À partir du moment où la farine qui est très volatile rentre dans le laboratoire, on n'a pas la possibilité de jouer sur cette.
Cet
élément-là. On a un gâteau qui ne contient pas de gluten, mais il peut contenir des traces. Alors, tout dépend de la.
Oui, non, bien. C'est pas grave, mais c'est juste pour pouvoir se régaler pour une vraie.
Mais comme il y a différents niveaux d'intolérance au gluten, il y en a qui ne peuvent absolument pas supporter la présence du. Voilà. Donc, voilà. Après, moi,
Il reste la mousse au chocolat, j'ai envie de te dire.
Non, mais après, il existe des biscuits qui contiennent. Nous, ce qu'on fait, par exemple, la merveille, qui est aujourd'hui notre gâteau plus. On va dire le plus attractif aujourd'hui dans notre gamme, puisque c'est ce qu'on vend le plus sur l'année entière. C'est un gâteau qui ne contient pas de gluten. On a remplacé par une meringue craquante le biscuit, donc du coup, voilà, il y a plein de produits. Comme
et vous l'avez fait justement dans cette intention-là, de se dire comme ça, au moins, on touche vraiment le plus grand nombre.
Pas du tout. Ouais. C'est vraiment. Le hasard.
Ouais, voilà.
Moi, je réfléchis pas du tout comme ça, en fait. Je réfléchis pas marketing, je réfléchis vraiment produit, puis de temps en temps, je devrais d'ailleurs un peu plus, hein. mais à part pour le Dubai Chocolate où j'ai été un petit peu, et d'ailleurs, on me l'a beaucoup reproché. Vous alliez suivre cette tendance.
Ça a été mal perçu.
Ouais, par beaucoup de nos clients qui nous disaient, non, justement, nous, on vous aime parce que vous restez
authentique.
Vous n'allez pas dans ces chemins-là et tout.
De toute façon, si vous ne l'ayez pas fait, d'autres auraient dit, on est surpris, que curieux que vous êtes.
Bien sûr. Ouais.
En tout cas, on retrouve plein de recettes dans ce livre, le cake marbré, notamment, qui est un grand classique aussi pour les enfants, le riz au lait. Là encore, comment est-ce qu'on. On garde, je ne sais pas, votre riz au lait de référence à vous, c'est celui que vous faisiez vos parents, j'imagine, ou pas ?
Ma mère faisait un gâteau de riz.
Qui est super bon, voilà. D'ailleurs.
Et donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Moi, il y a quelques années, en fait, le riz au lait, je le trouvais très compact, et on a décidé de mettre une crème légère dedans, c'est une chantilly, finalement, qui n'est pas
sucrée,
pour lui donner une texture vraiment...
un peu plus aérienne,
Et ça a été une vraie référence pour moi. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on voit souvent, mais...
Il a l'air très dangereux, ce riolet, je vous le dis, je sens...
Tout a l'air hyper dangereux.
Et tout est très dangereux. Le monde est rempli de choses trappes, et ce livre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut basculer d'une seconde à l'autre avec ces recettes rustiques signées Yann Couvreur chez Solar, et tout de suite dans la bande originale, c'est Camille
Bonjour tout le monde.
Bonjour Camille.
L'autre soir, j'étais tranquillement posée chez moi quand une amie m'envoie un message avec juste la photo d'une bouteille de vin. Bon, un peu bizarre, mais vous me connaissez, je suis polie, donc je réponds gentiment. Non, désolé, pas ce soir, Leïla. Et là, elle me dit, mais non, regarde le nom du vigneron sur l'étiquette. Et effectivement, en zoomant un peu, je reconnais le nom de mon premier amour, Antoine, mon amour de lycée. Je fais quelques recherches et j'ai la confirmation, il s'agit bien de lui.
Oh wow.
Alors déjà, première pensée, je suis ravie d'apprendre que je peux possiblement continuer de boire mon ex. Pardon, il y avait un sous-entendu sexuel. Non, ça ne me ressemble pas du tout. C'est juste que j'ai vu le spectacle d'Emma la semaine dernière. Ça a déteint sur moi. Ah, je vous jure, elle en voit. Hein. Ah, franchement, pour chouette. Ceux qui voudraient voir plutôt les premiers émois d'une jeune fille en fleurs, allez voir Bruno Pecky. Hein. Mais par ailleurs, super spectacle, Emma. Hein, notamment le moment où tu évoques cette histoire de génocide arménien que nous avons en commun, toi et moi. Le massacre de nos ancêtres, des barres, check ma biche, on est trop des sisters. Oui. Allez, sans transition, comme il aimait bien ça. Remettons-nous sur mon ex.
Donc,
deuxième pensée. Je suis ravie d'apprendre également qu'Antoine travaille dans le vin. Parce que pour la petite anecdote, juste après lui, j'ai vécu pendant 2 ans avec un œnologue. Voilà, clairement, apparemment, Camille, ça ne rime pas avec camomille. Après, bon, il y a une certaine logique. Parce que d'une façon ou d'une autre, on inspire tous ce qu'on est. Je rappelle quand même que l'ex d'Oldelaf est devenu VRP en isolation phonique. Et celle de Daniel Morin, standardiste chez Roqueclair. Bon. Et surtout, troisième pensée, j'étais heureuse d'avoir de ces nouvelles. Mais vraiment, vraiment heureuse. Voilà, en fouillant un peu, je vois qu'Antoine est amoureux, Antoine est devenu papa. Et je vous jure, j'ai éprouvé aucune animosité envers ça. Non, au contraire, ça m'a procuré une telle émotion de le voir si épanoui avec une énorme pub. Et du coup, je me suis demandé pourquoi c'est mal vu de rester ami avec ses ex. Moi, en vérité, je ressens un amour profondément bienveillant pour eux. C'est génial d'être ami avec quelqu'un que tu as aimé, estimé et en qui tu voyais vraiment, enfin, de vraies qualités. Et dans l'amitié, je trouve qu'il reste que le meilleur. Parce que, en fait, comme dans tout, dès lors qu'il n'y a plus d'enjeu, tout est beaucoup plus simple. Contrairement au couple, on ne fait pas d'efforts ni de concessions pour être ami. On se met pas une pression monumentale pour que ça marche. Non, il se trouve que c'est naturellement un succès. Non, on parle plus de ton spectacle, Emma. Par exemple, mon plus grand amour, mon ex historique, 5 ans d'histoire, de passion, de conflit, de réconciliation. Eh bien, aujourd'hui, on est très potes. Voilà. Et franchement, on est bien meilleurs amis qu'amoureux. En fait, quand on s'est séparés, c'était pas une rupture, c'était une requalification de contrat. Voilà. Et d'ailleurs, je me souviens qu'au début de notre relation, quand j'avais appris qu'il était lui-même très ami avec son ex, ça m'a tout de suite rassurée.
Oui.
Parce que pour moi, c'est même carrément un green flag, quoi. Oui. C'est vrai, les mecs qui te parlent jamais de leur ancienne relation, c'est quand même très étrange. Mmh. Les gars, ils ont des profils LinkedIn qui remontent jusqu'à la moyenne section de maternelle. Mais quand tu leur poses une question sur leur ex, ils sont là. Mais qui peut sonder l'ombre des temps jadis? Alors écoutez, j'ai décidé que maintenant, quand j'entame une nouvelle relation, plutôt que me demander si le gars fera un bon mari, je me demande d'abord s'il fera un bon pote. Parce que, comme le dit si bien Emma, dans la vie, il n'y a pas que le cul. Il y a aussi la teub et les... Bon, allez,
oh, wow,
Alors ça, c'est une publicité pour le spectacle d'Emma, là, Camille Lavabre.
C'est un spectacle. Emma, tu es une très grande comédienne.
Oh, mais... voilà, comme elles sont mignonnes. Ça, c'est vraiment... Ça va finir en câlin collectif, cette histoire, je vous le dis. Tout cet amour comme ça, autour de la gastronomie, autour de la pâtisserie rustique, les desserts de maison de Yann Couvreur, pour ce très très beau livre qui vous invite à revisiter les plaisirs simples, le goût de votre enfance. Vous, c'est quoi tout de suite le plat, le dessert qui rime avec votre enfance?
Qu'est-ce que ça peut être?
L'odeur, parce que vous parlez de ça au début du livre, comment tout d'un coup il y a l'odeur qui arrive dans une maison, on entre-ouvre la porte
du
four.
La vanille dans le four, mais je pense que c'est le gâteau de riz là, qu'on a évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est celui qu'elle maîtrise le mieux, ma mère. Donc, voilà. Ça fait longtemps maintenant que je ne l'ai pas mangé, parce qu'un jour j'ai dû lui faire une crise. Mais pour lui dire
que vous en aviez marre de manger toujours son gâteau de riz.
Bah ouais,
Bon, c'est un bel hommage, c'est la recette qui fait l'ouverture du livre.
C'est pas le seul. Ah, il y a le gâteau aux pommes aussi. Il y a un gâteau de pommes.
Ouais. Voilà,
le gâteau Maud, je crois qu'on l'appelle. Ouais, il doit pas être long.
Bon, en tout cas, le gâteau de riz.
C'est les deux qu'elle me faisait régulièrement. Voilà.
Et que vous faites vous aussi régulièrement ou pas?
Ouais, il y en a même un qu'on propose dans nos coffee shops. Alors, je dis non, il y en a qu'un, faut que je me calme. mais on a un coffee shop à La Défense qui propose le gâteau aux pommes de ma mère. Donc finalement, elle a une grande part dans mon inspiration actuelle. C'est que là, vraiment, j'ai plus d'idées, quoi.
Ouais, on va se replonger dans votre vie, justement, avec votre bande originale. On commence dans les années 2003-2004. Vous avez choisi d'écouter. Alors ça, c'est la musique du combattant, là.
Ouais,
Eminem.
Tout à fait.
On vous voit tout de suite prêt à monter sur un ring. Ça représente quelle époque pour vous dans votre esprit?
Alors, il faut savoir que j'ai pratiqué le football américain. C'était une musique de vestiaire.
Voilà. Ah ouais, ouais. Avant de rentrer sur le terrain.
Tout à fait. On a besoin aussi de... Parce que le football américain, c'est un sport de...
Contact.
De contact et qui nécessite une grande motivation physique. Voilà. Et du coup, c'est aussi ce genre de musique qui entraîne une motivation. Voilà.
C'est quoi le plus grand ennemi? C'est d'avoir peur en rentrant sur le terrain?
Ouais, exactement. Exactement.
Donc il faut quoi, être complètement dans un état second?
Surtout que je faisais pas partie des plus costauds.
Ouais.
Comme vous pouvez le constater, j'ai une trajectoire physique assez... linéaire et par conséquent fallait pas que je croise non plus les
gros
truc, parce que sinon d'ailleurs ça m'a coûté quelques séjours à l'hôpital.
D'accord, ok, bon bah voilà, voilà. 2003-2004, on va plutôt se tourner non pas sur les terrains de sport, mais on vous retrouve au Trianon Palace à Versailles.
C'est la même période à peu près.
Vous faisiez du sport à haut niveau à ce moment là
Alors haut niveau en le football américain en France, il est considéré pas vraiment à haut niveau, ou alors vraiment l'élite, c'est-à-dire l'équipe de France à laquelle je ne faisais pas partie.
Voilà. Et on peut pas être bon dans
donc
tout.
C'était plutôt sport pour loisir.
Ouais, d'accord. En tout cas, vous étiez au Trianon Palace à Versailles.
Tout à fait.
Il y a le restaurant Les Trois Marches, en fait, c'est ça. Hein.
C'est ça. C'est le restaurant gastronomique de l'hôtel.
C'est là que vous avez fait vos premières armes.
Exactement. J'ai commencé mon métier. En fait, j'avais même postulé pour être cuisinier là-bas.
D'accord.
Pour être tout à fait honnête. Okay. Mais j'avais fait cette spécialisation pâtisserie qui ça ne leur a pas échappé sur mon CV. Du coup, ils m'ont dit.
D'accord.
Voilà, donc j'ai eu, je pense, la carrière de cuisine la plus courte du monde.
Donc vous avez commencé commis.
Ça a duré 5 minutes.
C'est vrai. Ouais. Vous avez commencé commis, mais non, même pas une journée, pas plus.
Non, c'est en fait, toi, ça va être en bas. Ah, ok. Donc à la cave avec les pâtissiers et puis j'en suis jamais ressorti. J'ai fait 3 ans, presque 4 ans là-bas et voilà. Du dessert, principalement du dessert à l'assiette. Mmh.
Vous aviez fait déjà en troisième votre stage dans une pâtisserie.
Ouais,
on parle des stages de troisième, on voit passer des stagiaires parfois ici dans la maison de la radio et on n'imagine pas comment ces stages-là peuvent être déterminants pour la suite, pour certains, bien sûr.
C'est assez simple, je vous ai expliqué tout à l'heure que mon père était libraire et dans la librairie il y avait aussi la presse, la papeterie, etc. Donc la presse, il faut arriver tôt.
Oui.
Et donc mon père, qui était un grand rigoureux, arrivait, il voulait absolument que la presse soit installée avant que le premier client rentre dans la boutique. Donc, à force d'arriver tôt, il s'est lié d'amitié avec son voisin d'en face, qui n'était autre que le pâtissier qui m'a accueilli en vache. Ils prenaient leur café le matin avant d'attaquer. Et c'est comme ça qu'un matin, il a dit « Bon, bah, mon fils, il n'est pas capable de se trouver un stage, tu veux pas... »
Le prendre.
C'est, ça commence lundi, tu veux pas... voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Et puis finalement, c'était sympa.
Et c'est ce qui vous a mené à faire quand même un BEP de cuisinier, un CAP de pâtissier.
Exactement.
Donc ça a été un stage assez porteur.
Ouais, j'y ai été sans grande conviction, pour être tout à fait honnête. J'y ai été parce qu'il fallait bien faire quelque chose.
Et oui, voilà. Ouais, d'accord. Bah,
voie de garage.
Voie vraiment
de garage. Ah vraiment, aucune passion au départ. Je l'ai fait parce que oui, ce stage s'est bien passé, donc bah, je vais faire ça.
D'accord.
Parce que de toute façon, moi, ma vie, elle se résumait à cette époque-là au sport et aux potes.
Vous vouliez faire soit du sport en professionnel, vous imaginez quoi ?
Ah non, j'avais pas de talent suffisant, à dire. Je me débrouillais bien. C'était ma meilleure note dans le carnet.
Comme beaucoup d'entre nous, le sport, c'est une très bonne note dans le carnet.
Ouais, c'est ça. Bah, mon prof de sport était le seul prof au conseil de classe qui était satisfait de moi.
C'est vrai.
Ouais, donc voilà.
On passe à 2006.
Ouais.
Ça, c'est le retour au vestiaire.
C'est Aaron, c'est un tube d'Aaron qui a tourné tellement, on l'a tellement entendu, ce titre. Pourquoi avoir choisi cette musique ?
Avant tout pour casser cette image de bad boy qu'on pouvait avoir. Non, j'ai été marqué par le film aussi, je sais pas, beaucoup ému. C'est une période de ma vie où j'étais certainement plus tendre, voilà. Et cette musique, on l'a écoutée et réécoutée, mais ça me faisait plaisir, voilà, de nous la refaire partager ce matin.
Ouais, c'est gentil. Ouais. On vous retrouve au Parc Hayat. Vous intégrez les équipes du Parc Hayat. Il y a Jean-François Fouché qui est là et qui vous encourage, je crois.
Bien sûr, qui a un rôle très important dans ma carrière, si on peut appeler ça une carrière. Mais ça fait toujours un peu.
Oui. Voilà. Dans votre parcours.
Ouais, exactement. Dans mon parcours, je préfère.
Ouais.
Et du coup, bah oui, c'est quelqu'un qui me porte, qui me donne de la confiance.
Et c'est lui qui considère que votre parcours devra être dans le sucré et pas dans le salé.
Vous
avez déjà fait bifurqué.
La fourche, elle est déjà trop loin derrière. J'ai vraiment avancé sur la pâtisserie. J'ai eu au moins une bonne expérience entre les deux. Par contre, lui, il voit, en moi un certain potentiel. Lui, c'est quelqu'un de très créatif, mais un peu renfermé. Moi, je suis plutôt là pour souder l'équipe, avoir un rôle un peu leader. Et en même temps, j'ai quelques lacunes techniques qui s'efforcent de gommer et de me remettre un peu à niveau. Et voilà. Et donc, on se sert mutuellement l'un de l'autre avec les qualités respectives et complémentaires qu'on a.
On passe à 2008. On laisse décoller un peu ce titre. 50 Cent et Ayo.
Ayo Technologies, ouais.
Pourquoi ce titre ?
Pareil, c'est un titre qui m'a beaucoup accompagné, que j'ai adoré, et puis en plus qui a été repris après. Donc c'est un titre que je des fois ça s'explique pas, vous savez.
Ouais, voilà. Ouais.
Mais j'aime bien 50 Cent d'une manière générale.
En tout cas, c'est Saint-Barth.
Ouais,
c'est la période Saint-Barth, c'est l'Eden Rock.
Alors 2008. Ouais, c'est la fin du
c'est
parc Hyatt exactement, mais ça marche, j'avais mis Black Eyed Peas, il me semble. Mais on a dû avoir un petit,
peut-être un petit mélange, ouais. Ouais.
Donc Saint-Barth, j'arrive en 2010 à Saint-Barth. Et voilà, bah, première place de chef. Et en même temps, dans un cadre sympa.
Mmh. Bah, oui.
Évidemment, il y a pire. Mais en termes d'ambition professionnelle, on plafonne. À cette époque-là, Saint-Barth est une île encore un peu vierge. Et pas de blague.
Non, franchement, c'est ce finir.
C'est Noël.
Je vous rappelle que... Il y a des enfants qui écoutent. Ouais. Alors on essaye de... Après la question initiale...
Les enfants qui ne sont pas bourrés à cette heure-là. C'était le réveillon, quand même.
Du coup, c'est une île qui n'est pas encore touchée par les grands groupes hôteliers. On est dans une ambition qui est finalement assez... je m'ennuie assez vite, en fait.
Et vous partez à New York, en gros. C'est ça, un peu...
Je pars à New York 2 jours. Hein. Ça ne marche pas.
Okay.
Donc, je reviens à Paris.
Et comment ça, en 2 jours, vous avez vu que ça n'allait pas marcher?
Non, en fait, on ne sait pas... On
parle pas anglais.
C'est vrai que l'anglais était pas fabuleux, mais surtout en fait c'était un problème plus de un rangement financier, on n'était pas d'accord.
Ah.
Donc voilà, retour à Paris Express.
Et ben on passe en 2012.
Ah ouais.
Ça, c'est la bonne musique.
Ouais. Ça, on va voir si c'est la bonne ligne sur le CV par contre.
Bah alors moi j'ai le Prince de Galles.
Ouais, c'est bon. Ça y est, on a raccroché les wagons.
Voilà.
C'est l'ouverture d'un hôtel qui sera, je pense, la place tremplin pour moi. C'est la dernière en tant qu'employé. C'est ma collaboration avec Stéphanie Lekelec, que tout le monde, je pense, connaît.
Qui lui parle de vous?
C'est Akram, mon ami Akram, qui m'a déjà sorti une première fois de Saint-Barth et qui, là, vient me sortir du Burgundy, l'hôtel dans lequel je travaille, et qui, lui parle de moi pour ce qu'elle trouve pas de pâtissier pour ouvrir son hôtel. Elle est un peu embêtée parce que l'ouverture approche, il y a personne qui lui satisfait en fait
ce qu'il faut proposer. Mais alors comment, réalisateur fait passer des castings à des acteurs ou des actrices,
ouais,
comment
c'est un peu la même chose en fait.
Comment est-ce qu'on arrive à se faire engager par un chef?
En fait, il faut savoir que les ambitions de Stéphanie sont principalement, elle peut pas le dire ouvertement, mais principalement sur le restaurant gastronomique pour lequel elle veut obtenir des étoiles.
Ouais.
Donc elle veut un chef pâtissier qui soit très axé dessert à l'assiette.
D'accord.
Pour le restaurant.
Okay.
Et dans les entretiens qu'elle passe, elle rencontre beaucoup de chefs pâtissiers qui sont très forts, mais plutôt sur la partie hôtel, tea time et tout. Et c'est pas du tout sa priorité. Donc c'est pour ça qu'on matche bien, parce que moi je suis un pâtissier de restaurant à la base, un peu d'hôtel quand même, mais mes skills principaux, mais
compétences,
pardon.
Bien sûr.
Le mec est un sup. Je m'en rends
compte. Insupportable.
Insupportable. Ouais. C'est terrible. Je vous demande pardon à tous les auditeurs. Voilà. Et donc, du coup, mes compétences sont très axées à restauration et du coup, on s'entend bien là-dessus.
Et vous l'avez, justement, vous lui avez proposé quoi à goûter, j'imagine, au début?
En fait, pour rentrer dans un hôtel comme ça, on passe plusieurs entretiens, peut-être 5 ou 6 hein, quand même.
Ah oui, quand même.
Dont des entretiens psy et tout. Moi, j'ai cru qu'à ce moment-là, ça allait tourner vinaigre. C'est sûr.
Pourquoi entretien psy? Pour voir si
vous
allez tenir la
route?
Pour
savoir si je suis équilibré, déjà.
Ouais. Oui.
Savoir un petit peu quelles seraient mes réactions. Alors là, en plus, j'ai brouillé les pistes parce que j'étais là. Oui, mais bien sûr, je suis tout à fait normal.
Là, il y a Eminem qui revient dans la tête.
L'entretien psy, c'est vraiment peut-être un des trucs que j'ai le plus
redouté. Mais ça, c'est partout, dans toutes les maisons? Ou c'est particulièrement là?
Dans les grands hôtels, je pense que ça se fait.
C'est peut-être juste pour vous.
Ouais. Ils ont décelé une menace. Une menace, ouais. Donc, c'est... Mais en fait, à chaque fois, j'arrivais... En fait, je voulais surtout échapper au testing. Vous savez, quand il faut faire des gâteaux et les présenter à toute communauté exécutive. Bah, c'est un peu ça.
Ouais.
Et moi, je suis pas concours, en plus, donc... Je redoutais vachement ce moment-là. Puis, en fait, j'avais pas confiance en moi. Je vous le dis honnêtement, j'essayais derrière cette... Derrière une assurance
de façade,
je cachais vraiment un manque de confiance en moi. Donc, j'essayais à tout prix d'échapper à ce testing, à ce... Putain, c'est pas vrai.
Cette dégustation.
Voilà. Et du coup, j'amenais à chaque fois des petits trucs préparés pour essayer de convaincre. Mais en fait, Stéphanie, elle me dit, mais moi, je suis convaincu. Hein. Le problème, c'est qu'il faut convaincre tout le directeur général, ah ouais. Tout le monde. Donc et voilà, et ça sera pas le plus dur.
Vous avez sorti quoi, le gâteau de riz, le gâteau au chocolat?
Non, j'ai sorti. Je me souviens que j'ai sorti plusieurs. Alors aucun de ces gâteaux-là. Bah donc, oui. C'était plus sophistiqué
bien
que ça,
sûr.
Parce que c'est ce qu'on attendait aussi dans ce type de place. Mais il y avait notamment une tarte citron meringuée, voilà, qui n'était pas si sophistiquée que ça, mais en tout cas qui a fait mouche.
Qui a fait mouche et vous avez été engagé. Continuons de parler de Rustique, les desserts de maison aux éditions Solar. On va en parler avec notre spécialiste du jour, Sylvain Zaffaroni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert des tendances et innovations alimentaires, fondateur de Pour Nourrir Demain. Là, avec ces recettes du fait maison, ce retour au goût de l'enfance, il y a une forme de nostalgie alimentaire qu'on observe aussi plus globalement dans la gastronomie en ce moment.
Oui, au-delà de la gastronomie, donc moi j'accompagne plutôt les marques agroalimentaires et effectivement ces marques françaises se jouent beaucoup en ce moment sur la nostalgie parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des consommateurs qui ont besoin aujourd'hui d'être réassurés dans un monde un peu anxiogène et compliqué avec des marques qui existent depuis très longtemps. Mmh. Voilà. Qui était plutôt décrié à une époque, parce que sur mode industriel, et le Covid a fait un gros changement parce que ces marques étaient présentes pendant le Covid. Et il n'y a pas eu de pénurie dans les magasins,
les
supermarchés. Ouais. Voilà. Et les Français, ils ont compris que ces marques, qui sont souvent centenaires, hein, pour la plupart, hein, toutes les marques que vous avez dans vos rayons sont nées après la Seconde Guerre mondiale, voire avant, ont survécu à des crises, à des guerres, et aujourd'hui sont présentes. Et donc maintenant, ça devient effectivement un petit effet marketing associé.
Oui. Donc ça renvoie à l'enfance, ça rassure, ça réconforte, et donc ça plonge dans quelque chose d'assez confortable, tout simplement. Mais il y a aussi... j'imagine des recettes, des plats. Alors là, si on parle de produits industriels qui sont déjà préparés, mais dans vraiment le faire à la maison, il y a c'est complètement indétrônable, le fait maison qui rappelle l'enfance.
Oui, tout à fait. Donc, on a beaucoup, effectivement, de marques qui jouent sur recréer ou refaire sa cuisine chez soi, même si c'est déjà souvent pré-préparé, on va dire. Mais ça joue beaucoup là-dessus, le besoin d'avoir un peu le geste qu'avait sa grand-mère ou sa maman ou son papa à une époque, et se dire, finalement, même si je ne suis pas un grand cuisinier, je vais pouvoir revenir dans le passé et faire les recettes que j'adorais.
C'est ça, les meilleures plats sont toujours les meilleures plats c'est ceux de maman en fait, c'est ceux de la maison tout simplement. Vous avez, il y a tout un marketing donc autour de cette nostalgie, on le voit sur les marques, si on met les confitures de maman, les choses d'antan, il y a tout un vocabulaire aussi qui permet d'asseoir ça.
Ouais, alors en ce moment il y a une mode très, très forte qui, vous voyez toutes les dates anniversaires sur les paquets.
C'est vrai, les
120
maisons,
ans, les 110 ans, les 70 ans, les 40 ans de chaque marque, en fait, une fois plus. Et après, bon, il y a des marques un peu iconiques qui sont des marques qui sont déjà ancrées, comme Bonne Maman, comme Merveille du Monde, des choses qui sont ancrées dans notre jeunesse, finalement, et qui ont su se réinventer, puisqu'ils ont quand même évolué, mais ils sont restés sur ce goût, on va dire, du plaisir enfantin.
Même pour ceux qui n'ont pas connu la marque je parle des plus jeunes gens d'entre nous, en fait, qui n'ont pas ça dans l'imaginaire, c'est une marque qui fait référence quand même.
Ouais, alors ça c'est assez nouveau puisque effectivement c'était des marques qui étaient plutôt associées à des consommateurs de notre âge, et aujourd'hui en fait grâce aux réseaux sociaux, grâce à des chefs plus jeunes effectivement et à des influenceurs, on retrouve effectivement des marques au sein même de l'amour de ces enfants, enfin de l'envie de déguster des produits de marques anciennes.
Et ça vend bien, j'imagine que ça fonctionne.
Ça vend plutôt bien. Il y a un chiffre qui explique que 20% quand on a un packaging rétro, on vend plus de 20% de ces produits par rapport à packaging non rétro.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment un argument de vente, d'achat, tout simplement. Donc c'est une forme de... c'est un filon, en fait, que les marques exploitent.
Pas spécialement, parce qu'en fait, il y a une réalité derrière. Alors, il y a des marques qui essayent de réinventer une nostalgie, mais en fait, maintenant, avec les informations, les réseaux sociaux, etc., on se rend bien compte s'il y a quelque chose derrière ou pas, en fait. S'il y a un passé de la marque.
Est-ce qu'il y a des marques comme ça qui, particulièrement, fonctionnent sur cette nostalgie? On a parlé de Bonne Maman, on va en citer plusieurs pour être...
Oui, alors, Merveille du Monde, je sais pas si vous connaissez, c'était des chocolats, des tablettes de chocolat que nous, on a connues dans les années 90, qui avaient disparu. Qui a disparu pendant une vingtaine d'années, qui a été racheté par deux jeunes entrepreneurs et qui a relancé vraiment avec le même packaging des cartes à collectionner physiques,
d'accord,
et pas numériques.
Okay.
Et ça fonctionne très très bien. Et ils vendent mousseline, qui est revenu aussi en arrière, qui avait modernisé son packaging et qui revient en arrière sur des packagings en parlant même de presse purée, alors que ça nous parle plus beaucoup la presse purée. Voilà, sur des codes comme ça qui permettent de se rappeler de sa cuisine familiale.
Merci beaucoup Sylvain Zaffaroni. Je rappelle, vous êtes expert des tendances, des innovations questions alimentaires et fondateur aussi de Pour Nourrir Demain. Voilà, c'est une tentation, cette nostalgie-là, même dans le packaging. Vous aussi, Yann Couvreur, dans la façon de présenter, dans vos maisons, dans vos pâtisseries, de faire ce recours-là à l'enfance.
Dans tous vos coffee shops.
Non, ce que je peux vous dire, en tout cas, ce qui fait un peu écho à ce que vient de dire Sylvain, c'est que moi, dans mon cahier des charges créatifs, j'essaye toujours d'aller concurrencer les grands-mères. C'est-à-dire, non, mais bien sûr, on n'arrivera pas à faire mieux parce que les émotions remontent à l'enfance, sur la pâtisserie notamment, et même sur le reste, je pense. Donc, on essaye toujours d'aller chercher les goûts de l'enfance, dans tous les gâteaux qu'on propose aujourd'hui. Donc, c'est ancré en moi. J'essaye toujours d'aller chercher, en fait, l'enfant. Voilà, avant toute chose.
Voilà, restons enfants tous ensemble dans la bande originale. Tiens, il y a un grand enfant qui vient nous accueillir, qui vient nous rejoindre. Oui. Pardon, c'est Tanguy. Salut Tanguy, de quoi on parle tout à l'heure. Bonjour. Bonjour.
Moitié une voix d'enfant et moitié un accent chinois raté. Quoi.
C'est vrai.
Je parle des injonctions. L'injonction à être bien et heureux et dans la fiesta le 31 décembre au soir, alors que le 31 décembre au soir, c'est nul.
Oh là là, restez avec nous sur Inter. Bienvenue sur France Inter avec Emma Beaujean.
Bonjour.
Avec Camille Labarre. Ah. Tanguy Pastureau. Bruno Petit. Adela.
Bonjour et joyeux Noël.
Ouais. Daniel Morin.
Coucou Bruno.
Et notre invité, Yann Couvreur.
Viva
France Inter.
Et joyeux
la
Noël.
Bande originale. Leïla Kadhi.
Et joyeux Noël.
Wow. Oh mon Dieu. Mon Dieu.
C'était pour toi, Tanguy.
Ah, merci. Pour toi.
La plus jolie réalité. On espère que vous avez passé un bon réveillon. On est ravis de vous retrouver sur France Inter avec Yann Couvreur. On s'est dit, vous n'avez pas assez mangé hier soir. Continuons à saliver et à imaginer les recettes qu'on pourrait bien préparer au chaud, à la maison, en famille, avec les enfants, parce qu'on peut faire participer absolument les petits aussi à la cuisine. Ouais. C'est le cas chez vous, j'imagine. Vous leur transmettez déjà ça?
De plus en plus. J'essaye, hein. Ils sont encore très pâtisserie industrielle, malheureusement. Je suis un peu démuni face à ça.
Ouais. Il y a quelques sucres aussi différents. Vous parlez de sucre inverti. Ça, je ne connaissais pas.
Ouais,
c'est pas obligatoire.
C'est facultatif, normalement, parce que c'est aussi beaucoup un rôle. Enfin, ça a beaucoup un rôle. Dès que je parle français, ça va. C'est surtout d'un point de vue conservation, souvent. Ça s'utilise plutôt dans la conservation.
Oui, donc on n'est pas forcément obligé d'en passer par là, comme le dextrose.
Ouais, pas, voilà, ça y est, on est en train de défoncer le livre. Là, ça y est.
Non, pas du tout, je donne juste ces deux exemples. Parce que
c'était pour la glace. En fait, c'est un stabilisateur pour la glace.
Voilà, donc voilà, ça, on n'est pas obligé. On va acheter la glace. Je vais acheter la glace, on n'en parle plus.
Acheter le gâteau.
Il y a deux.
Ceux qui ressemblent à quelque chose, achète le
gâteau. J'achète tout, j'achète
tout. Surtout acheter le livre après.
Voilà, après c'est ça.
Vous êtes dans la boulangerie, vous dites je veux ça.
Oui, c'est ça. Deux saisons, automne, hiver, printemps, été, avec vos recettes adaptables. Des recettes de saison, des recettes simples, en effet, pas d'ingrédients exotiques, pas de matériel compliqué. Vous passerez de l'obstacle assez facilement. Et puis, quant à l'apparence, le chef vous met à l'aise dès le début, dans les premières pages. Ce qui compte, c'est la générosité, la convivialité. Et ensuite,
je vous mets à l'aise surtout parce que je vais pas avoir le résultat, donc je m'en fiche.
Il est horrible, c'est horrible.
Il est honnête,
mais c'est pas possible.
Non, non, n'hésitez pas à m'envoyer surtout les résultats sur Instagram. Évidemment, je vous cache pas que ça ira directement à la poubelle.
Vos plus grands ratages.
Non, non, c'est vrai que ça pourrait être encore l'idée d'un prochain livre. J'ai plus d'idée, donc voilà,
c'est
tout
vrai,
vos ratés reliés en un seul.
Je pense qu'on va se lancer un petit défi autour de la table. Ouais. On va essayer de tous faire une petite recette et on va prendre une photo.
Ça me ferait trop plaisir. Franchement, ça
vraiment,
ferait
plaisir. C'est vrai. Bon, on va essayer ça. On peut essayer ça. Camille.
Et voilà, des voir en plus.
Non, c'est vraiment.
Je suis en train de penser à la taille de ma cuisine et ce qui la constitue. Ouais, galère.
Ça va être galère.
Un truc comme micro-ondes, c'est bien, non?
Ouais. Et puis franchement, la taille ne compte pas tant que ça, Camille.
C'est Noël.
C'est Noël.
On peut faire des trucs formidables avec des petits outils et tout. Franchement, c'est...
C'est ce que dit Tanguy souvent.
Si ça, c'est pas une parole de Noël. Si ça, c'est pas ça. C'est ça l'esprit de Noël.
Je vous parlais de ma faculté d'adaptabilité. Voilà.
C'est une démonstration concrète et directe, sans transition.
C'est rustique, mais ça
marche. Tanguy Pastureau.
Les amis, ça y est, on en est à la moitié des fêtes. Bientôt, cet enfer sera derrière nous. Comme chaque année, ça a été l'acteur studio. On a été obligé de se transcender sur l'interprétation. On a fait, oh tata, une Smartbox séjour en roulotte, merci. Alors qu'on pensait, mais tu m'as pris pour Kenji Girac, tata. On a été jusqu'à se dire, je ne pense pas que tu es l'anus carré, tata, personne ne l'a. Mais c'est dommage parce que cette Smartbox étant elle-même carrée, ça serait entré parfaitement, tata. Je ne connais pas une personne ayant reçu une Smartbox qui l'ait faite un jour. Trois nuits en yourte, c'est pas un cadeau, c'est une punition. Les Mongols qui vivent ça, c'est juste parce qu'ils habitent dans leur steppe et qu'il n'y a pas Bouygues Immobilier. Sinon, ils habiteraient un F6 en rooftop avec vue sur la steppe. Et Valentin Cresse de l'agence passerait en disant « Les prestations de cet appartement sont exceptionnelles, Bayard. Je vends ça à Nagui ou à Xavier Niel, ça va pas traîner. J'espère que vous avez eu de beaux cadeaux qui vous correspondent. Oui. Lila, l'intégrale de la Pléiade. Yes. Camille, des places pour Jules. Holdelaf, un calendrier de Jean Amadou. Bruno, une girafe. Sophie, la girafe. Oh. Moi aussi, j'ai été gâté. Alors que la nature m'a déjà tout donné. J'ai une Smartbox massage au galet chaud en parachute. C'est un nouveau concept. Deux activités en une. Vous sautez en parachute. La masseuse aussi. Pendant le show, elle vous vise dans le dos avec les galets. La moitié, vous les prenez dans la gueule. Bon, le concept reste à affiner. Alors, ça n'existe pas. Hein, je vous précise. C'est juste que j'ai un imaginaire débordant. C'est le terme pour dire elle est complètement timbrée. Bref, Noël, c'est derrière nous. Fini les contraintes familiales, comme dirait Xavier Dupont de Ligonnès. Mais il reste la Saint-Sylvestre. Cette soirée atroce. Où on se tape tous les amis qui vous disaient la santé, surtout alors qu'on vient de vomir dans l'évier à la suite d'une intoxication aux huîtres. J'aime m'amuser. Une fois, j'ai même lancé un serpentin. D'accord, trop fort. Et dans l'œil d'une personne, en hurlant, meurs, charogne. Bon, elle m'avait offert une Smartbox. Mais ce que je reproche à cette soirée, c'est l'injonction qu'elle véhicule. Il faut faire la fête. Il faut que ce soit fun. Si tu éclates en sanglots parce que tu as pensé à l'état de la planète ou au fait que Lucie Castet ne reviendra plus jamais, on t'accuse de gâcher la soirée. Si tu te taillades les veines parce que t'es vegan en criant dans une autre vie, j'aurais pu être cette poularde. Attendez que je soulève ma robe, regardez, j'ai les mêmes cuisses. Pareil, le 31 décembre, il faut être de bonne humeur. Mais d'où de bonne humeur? Chaque année, c'est la même chose. On mange trop, en 3 heures, on flingue sa routine détox des 30 dernières années. Vrai. Jusqu'à 22 heures, on crève la dalle parce qu'un pote a calculé que si on voulait être au dessert à minuit, il fallait commencer à cette heure-là. Donc on ingère des cacahuètes pour attendre par kilo. Ouais. Un rêve de macaque. Un 31 décembre, les autres pensaient que j'avais disparu. Pas du tout, j'étais dissimulé derrière la montagne de coques de pistache que j'avais été obligé de bouffer pour tenir. Et tenir pourquoi? Pour souhaiter bonne année. Ça va quand on est jeune. Et ma Beaujean, il peut lui arriver que de bonnes choses. Comme voir son salaire à France Inter être enfin indexé sur l'euro et plus sur la roupie indienne. Mais nous autres, les vieux, on a un regard lucide sur les choses. Si je fais le 31 avec Daniel Morin, qui sera d'ailleurs le 15 février en spectacle à Strasbourg, on aura quoi?
Oh oui.
Deux hommes tellement mûrs que si Laurent Mariotte faisait une tarte aux hommes, il nous mettrait pas dedans. On sait, nous, que l'existence est une tragédie. Combien d'anciens chroniqueurs avons-nous vu mettre fin à leur jour pour ne pas avoir réussi à négocier l'après-BO? Ce qui fait qu'à 20h30, si on était ensemble, je dirais à Daniel, on va se coucher. Il répondrait oui, et je prendrais du temps pour lui expliquer que par on va se coucher, j'entendais séparément. Observez les gens qui font la fête le 31. Ils ne font pas la fête, ils font semblant. Derrière chaque sarbacane en carton utilisé pour projeter une boulette en papier, il y a un appel au secours. C'est ça la fête. C'est un SOS, toujours. Si tu vois pas les vies en gris, tu lances pas de confetti multicolore. Si t'es bien dans ta peau, tu jettes pas des harengs au carnaval de Dunkerque déguisé en infirmière à gros seins alors que tu t'appelles Romuald. Et puis le 31 décembre, il y a les vœux de Macron. Oh là là, quelle tannée. À chaque fois, il affiche cette air satisfaite, celui qui a réussi son année. Et chaque année, il y a la moitié des convives déjà à moitié ivres qui disent « On va te pendre, salopio !» Il parle révolution avec la bouche remplie de saumon fumé la berry. Parce qu'évidemment, on n'a pas pu tenir 3 heures juste en bouffant des cacahuètes. Le 31 décembre, c'est l'obligation de s'amuser. Mais il y a de joie nulle part. Juste des connards qui sont tranchés 4 doigts en sabrant le champagne, qui saturent les urgences. Et pourtant, on est tous là à se dire les uns les autres « Tu as prévu un truc pour le 31 ?» Et on sait que si on répond « Non, j'ai rien, on passe pour un loser, un asocial, quelqu'un qui ne boit pas, qui ne couche pas, un trouble fête sans cirrhose ni MST. » Alors on s'invente des fêtes grandioses. Moi, cette année, j'ai dit que je partais en soirée Eyes Wide Shut dans un manoir en Roumanie peuplé de vampires. Alors que je vais passer la soirée sous ma couette devant TF1 à regarder je sais quel animateur faire le décompte de la nouvelle année dans une émission enregistrée le 12 octobre. Oui. Le 12 octobre, à 15h, ils ont été obligés de défoncer la gueule de Christophe Beaugrand comme un moine cistercien qui aurait bu toute la production de liqueur de l'abbaye. Donc je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices. Cher public, déjà merci, sans vous, je ne serais pas là. Si vous n'avez rien de prévu le 31, ce n'est pas un problème. Moi, Pasturo, seigneur des ténèbres, je vous le dis, c'est OK. Il n'y a aucune raison que 2026 soit mieux que 2025. Ça va être atroce. Le 1er janvier, ce sera comme le 31 décembre, mais en moins bien, parce qu'on aura l'estomac en miettes, le bruit à la truffe de la veille ayant été contaminé par la listeria. Stop aux injonctions, à la Saint-Sylvestre, emmerdez-vous. Merci.
Merci pour lui.
Tanguy sur scène à Caen, ce sera le 20 février, au centre des congrès. C'est énorme, mais c'est cosy à la fois.
Et vous, Yann, comment vous abordez le réveillon du 31 là? Il nous a donné envie, là. Très envie.
Effectivement. Bah, moi,
pareil comme pour le réveillon de Noël.
Bah, il est un peu moins festif que pour les autres, puisqu'on est, on enchaîne tout de suite avec les galettes des rois, nous. Donc, évidemment, le pro reprend le dessus.
Et bien sûr.
Et oui.
Eh oui, donc direct, ça s'arrête derrière. Jamais, ça s'arrête jamais.
Pas en cette période.
Ouais,
pas en cette
période. Donc là, c'est le moment d'être endurant et de se reposer.
Ouais, faire attention à ça.
Condition.
À sa tête aussi, ouais, à sa tête, à sa
important.
Santé. Votre livre, donc, Rustique, les desserts de maison aux éditions Solar, et dans la bande originale, un peu de musique avec Cake. Oui, I Will Survive.
C'est bien. Bien joué.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my f***ing lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Still in love with you, and so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
C'était Cake
musique sur France Inter, I Will Survive, un petit clin d'œil à vos recettes Yann Couvreur, ces recettes, ces desserts maison, on lisait retour aux choses simples, avec le goût d'antan, avec ces saveurs qui reviennent, on a parlé de la vanille, il y a la cannelle aussi, que vous convoquez à de nombreuses reprises, le cacao, c'est ces espèces de grands classiques, ça nous donne tous le sourire dès qu'on dit ça.
Ouais, bien sûr, bah, c'est des produits qui sont pas associés à des galères ou des crises, donc forcément, ça nous donne le sourire. La cannelle, pas tant que ça, un petit peu, c'est vrai.
Aussi dans la croûte,
ouais,
la
mais
croûte
comme c'est un
sucre.
Produit qui est clivant. Ah. J'essaye de pas en mettre trop non plus. Et puis c'est tout, ça reste toujours du facultatif.
Mais on s'est engueulé à la pause, là, on parlait de cannelle.
D'ailleurs, je t'interdis de me parler comme ça. Et donc là, vous proposez aussi de pouvoir remplacer certains produits.
On peut toujours substituer. Ce qu'il faut regarder, c'est la technique et après la même famille de produits. Donc c'est-à-dire là, je vois que vous êtes sur le cake à la noisette.
Oui.
Si demain vous voulez le faire à la noix de pécan, ça va fonctionner de la même façon.
Oui, et même quantité, et on peut transformer. Il n'y aura pas de problème.
Mais voilà. Et puis il faut s'aventurer. Moi, j'encourage à ce qu'on s'aventure et à aller découvrir et faire son propre chemin.
On ne peut pas vraiment rater.
Non, bien sûr, il faut quand même respecter les étapes. Parce que sinon,
je vais t'envoyer des photos, tu vas voir si on ne peut pas rater.
Non, on va vous envoyer chacun une photo d'une de nos réalisations.
J'y tiens vraiment, j'entends que ça a été dit.
Vous allez les jeter après, vous n'allez pas pouvoir les garder, c'est ça. On sait que vous avez besoin de
les photos. Non, ça peut toujours resservir.
On vous fera des madeleines, notamment. Ça aussi, c'est un grand classique, ça fonctionne toujours bien. Le flan, encore une fois, le gâteau aux pommes, bref, ça c'est pour la partie automne. Hiver,
les vraies recettes
qui réchauffent
sont vraiment les vraies recettes.
C'est-à-dire
que vous savez, il y a cette fameuse légende urbaine où les pâtissiers ne donnent pas leurs vraies recettes dans les livres. Moi, j'ai jamais fait ça, je le ferai jamais. Et voilà, je considère que c'est un peu mon rôle aussi de transmettre les recettes, faire.
En plus, vous en êtes
très humblement faire redresser le niveau pâtisserie française. Bien sûr, je plaisante.
Il faut réarmer les utérus et puis il faut réarmer les pâtissiers en France.
Exactement.
Ça, c'est un beau programme de la fin 2025, les amis, bien sûr. Et tout de suite, il nous faut bien un hommage dans cette émission.
Oui.
C'est Emma Beaujean.
Oh là là. Bravo.
Emma.
Bonjour tout le monde. Alors, tous les jours dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage au journal télévisé.
Oh là là.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons notre journal avec cette nouvelle qui est tombée ce matin. Il a été aperçu à Orly grâce à plusieurs caméras de surveillance. Arrivé il y a quelques heures de Turquie, le visage dissimulé sous une casquette et des bandages, Daniel Morin, dit Danito, n'était finalement pas en tournée ce week-end, comme il l'a fait croire à ma propre mère. Mais il s'est bien rendu dans une clinique d'Istanbul pour une greffe de cheveux. La loi pour taxer les ultra-riches qui avance à pas de loup, une loi jugée trop restrictive par la droite. Pour en parler avec nous en fin de journal, nous recevrons quelqu'un de directement concerné. Notre cher confrère Nagui sera avec nous. Enfin, les fêtes qui approchent et c'est la course pour acheter un sapin. Nous irons à la rencontre du chansonnier amoureux de Noël, Olaf, qui nous montrera comment choisir son conifère et qui nous interprétera la chanson des sapins. Bon, je crois qu'on a compris. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment envie de rendre hommage au JT aujourd'hui parce que quand j'étais petite, c'était quand même quasiment le seul moyen d'avoir des infos. Maintenant, on a les téléphones pour garder les news. D'ailleurs, attention avec le mot, parce que la semaine dernière, Bruno Pecky m'a demandé des news et j'ai mal lu. J'ai lu des nudes, donc voilà. Donc, désolé mon Bru-Bru, au moins maintenant tu es au courant de ce qui se passe dans mon monde. Le JT, c'est quand même toujours le moment des mauvaises nouvelles. On ouvre toujours le journal par les pires nouvelles. Par contre, il y a un truc que j'aime bien à chaque fois, moi à la fin, c'est les news un peu locales. C'est à la fin du journal de midi. C'est dans ce petit atelier de Villamblard, en Dordogne, que Gaston Francis fabrique les meilleures prunes à l'eau de vie de la région. Un reportage évidemment signé Leïla Kadour. Et c'est toujours les mêmes marronniers dans les JT du midi. C'est la rentrée. Bon, bah, il faut acheter des cartables. C'est les premières neiges. Les Français rallument le chauffage. C'est l'été. Attention aux bouchons sur la route. Il n'y a jamais de scoop. Bon, après, j'avoue, moi, c'est un petit peu mon rêve d'être interviewé dans ce genre de reportage. En Alsace, le froid s'installe doucement. Et avec lui, une tradition. Les habitants attendent chaque année avec impatience le marché de Noël. Des ruelles décorées, des guirlandes à perte de vue. Et cette ambiance chaleureuse qui fait oublier les températures négatives. À Wilkoin, Stichter, Furkel, Furkelfenheim, mais aussi dans de nombreux villages aux alentours, les chalets en en bois ont ouvert leurs volets. À l'intérieur, on retrouve les incontournables Prétiluche, Pétilu et autres pains d'épices. Des produits artisanaux souvent fabriqués à la main. C'est le cas de l'atelier d'Emma, ancienne chroniqueuse à Radio France. Après avoir mis un terme à sa carrière dans le show business, loin des paillettes, elle raconte « Bah ici, tout est fait maison. En fait, voilà, moi, mes biscuits, je les prépare un petit peu comme le faisait ma grand-mère. Les gens viennent chercher ici un goût d'antan, un souvenir. Voilà, pas comme moi. Moi, mes souvenirs de Daniel Morin qui fait des licobites au schmuck, j'aimerais les oublier. Oh, wow. Sur la place du marché, les visiteurs dégustent un vin chaud aux épices pendant que les enfants s'émerveillent devant les illuminations. Certains sont venus de loin pour trouver cette atmosphère unique. Rencontre avec Olivier, un intermittent du spectacle, qui retrouve ici les valeurs saltimbanques qu'il affectionne.
Ouais, c'est féerique. On retrouve pas ça ailleurs. On a vraiment l'impression d'entrer dans un film de Noël. Et pardon, mais ça vous dit que je vous fasse peut-être la chanson des sapins? C'est la place
du village. Ouais, beaucoup du reportage et du sketch, Olivier. Bon, et évidemment, comment parler du JT sans parler de Leïla Kadour, pour moi. Leïla, tu es au JT, ce colossal et à la mer, indispensable et salé. Si tu pouvais parler de ma demande d'augmentation à Nagui, ça serait cool. En réalité, moi je te le dis, j'ai eu l'idée de faire cette chronique parce que tu m'as réconcilié avec le JT. Vraiment, pour moi, c'était des vieux personnages déguisés en eux-mêmes, chargés de nous dire que le monde brûle, et la petite miss du service public, là, qui finit avec ses petites recosines supplément smile dans la voix. Alors finalement, c'est aux femmes qui aiment tellement leur métier qu'elles donnent de l'espoir aux petites filles qui les voient faire que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Un amour. Oh, c'est toi mon cadeau, Emma. Alors là, vraiment, c'est trop mignon.
Ça y est, vous avez fini ?
Bah ouais, mais c'est l'esprit de Noël. Emma est sur scène, bien sûr.
Bien sûr, elle est sur scène à partir du 3 février. Elle sera tous les mercredis à 19h au théâtre Le Pic. Emma Beaujean.
Super, merci Emma. On continue un petit mot de rustique, les desserts de maison aux éditions Solar. On va devoir se quitter. Moi, je tiens à faire un petit clin d'œil à une recette en particulier. Ce sont les beignets feuilletés aux agrumes. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle un truc d'enfant. La photo, elle est absolument sublime. Bref, Daniel, il est temps de présenter des excuses.
Oui. Désolé pour le médecin d'Oldelaf qui, en entendant l'émission de ce matin, a compris que son meilleur client lui faisait des infidélités. Eh ouais, le viking du service public a demandé au docteur couvreur comment faire pour se régaler quand, comme moi, on est allergique au gluten.
Ça me fait
transpirer des pieds et de la langue. Et juste après, il m'a demandé de prendre sa tension oculaire en enlevant son pantalon. J'ai trouvé ça bizarre. Il a demandé ensuite au docteur Kadour comment sortir de l'enfer de l'alcool. Elle lui a répondu en éclatant de rire, puis lui a servi un Ricard Malibu chez Népi. Voilà, il ne viendra plus vous voir, docteur. Il se confie à l'hôpital de la bande originale. Désolé pour tous nos auditeurs tatillons qui ont trouvé que notre invité, Yann Couvreur, utilisait un peu trop d'anglicisme. Il ne finissait pas toujours ses mots. Oh, ça va, un phoque à la fin. Vous êtes vraiment dans une shitty mood. On parle comme on like, les amis. Quant à sa tendance à ne pas finir ses mots ou ses phrases, là, je trouve que vous êtes un... Désolé pour le département marketing et communication de Yann Couvreur qui a vendu son livre aujourd'hui, son livre rustique, avec deux arguments forts. Les photos sont truquées et parfois je n'ai plus d'idées. Alors, des gens mauvais en promo, Yann, on en a vu. Mais là, c'est Jingle Bell, bravo.
Bravo, merci Daniel. Merci à tout le monde autour de la table et merci Yann d'avoir
merci
passé
beaucoup.
Ce 25 décembre
ouais, c'est
en partie
plaisir.
Avec
c'est
nous dans cette magie de Noël. Serrez quelqu'un dans vos bras, faites-lui un bon gâteau, c'est un peu le message du jour.
Demandez-lui s'il est d'accord.
Demandez-lui quand même s'il est d'accord pour commencer ta raison. On recommence, demandez d'accord, d'accord.
Demandez d'accord.
Voilà, le câlin, le gâteau.
Et on retourne se coucher.
Et on retourne se coucher, merci.
Et on lâche
Yann.
La personne avant.
Merci et belle journée à tous sur Inter.